Nul en sport. Voilà, question un peu brutale, non? Le sport, on va dire, c'est quelque chose où il y a eu des moments positifs et des souvenirs un peu moins positifs dans ma vie. À l'école primaire, j'ai plutôt de beaux souvenirs d'expériences sportives. Et en fait, j'étais dans l'équipe de netball, un sport qui n'est pas vraiment joué en France, qui est d'ailleurs un sport comme le basket, mais on va dire pour les filles, comme on disait. Et oui, j'étais le seul garçon dans l'équipe de netball, dans mon école primaire. Et tous les ans, il y avait un ou deux garçons qui faisaient partie de cette équipe. Mais c'était un sport que j'ai adoré et j'ai vraiment retrouvé le plaisir sportif d'un jeu d'équipe. Et depuis, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé. Et je dirais, en fait, ce qui est arrivé, le secondaire est arrivé, donc arrivé le collège et puis encore après le lycée, où tout à coup, il y a cette stigmatisation affreuse autour du sport, encore plus à mon époque, mais c'est un peu le cas aujourd'hui, où il y a des sports pour les filles et des sports pour les garçons. Donc arrive voilà le collège par exemple les garçons sont poussés à jouer du rugby, les filles c'était du hockey sur gazon. Donc j'avais pas le choix et j'ai ce souvenir des sorties l'hiver dehors, il pleuvait, il y avait de la boue partout et ce sport qui pousse à une brutalité de représentation de masculinité des ados qui ont 14 ans, c'était vraiment une expérience horrible. Je faisais tout pour éviter le ballon. Déjà, miraculeusement, une fois, je l'ai eu. Bah, j'ai vu arriver d'autres gars qui allaient me plaquer par terre pour choper le ballon et ça allait finir un peu, voilà, brutal. Donc, j'ai décidé de courir hors terrain. Ça siffle, ça crie, retournez sur le terrain. Donc, j'ai fait tout pour éviter le ballon. Et en fait, je fais tout à ce moment-là pour éviter le cours de sport. Dans mon planning, c'était le jeudi après-midi. C'était toujours comme ça. Le mercredi soir, j'avais souvent des angoisses, un petit peu boule au ventre, à l'idée d'aller à l'école le lendemain. J'avais des cours de musique particuliers que je faisais et je pouvais les placer sur le planning où je voulais. Et donc, je faisais tout pour les placer en même temps que le sport. Jusqu'au moment où le prof de musique me disait que ça serait mieux de le placer un peu ailleurs de temps en temps pour pas louper toujours le même cours. Et je sais pas ce que c'était vraiment, enfin, c'était pas ma performance sportive. Des fois, j'avoue, j'étais un peu nul en badminton et en squash où j'arrivais pas vraiment à coordonner la raquette avec l'arrivée du balle. Mais après tout, c'était peut-être juste le sport qui faisait ressortir d'autres émotions. Et en fait, cette identité à l'école, enfin, se trouver sa place, et cette représentation de surmasculinité notamment, j'ai subi quelques difficultés dans le secondaire, on va dire. Et ces difficultés étaient toujours exagérées en cours de sport. Et c'était peut-être plutôt pour ça. Jusqu'au point où notre lycée avait une piscine, il y avait une odeur de chlore, mais très marquée. Et cette odeur-là a renvoyé des émotions jusqu'à même aujourd'hui. J'ai des sortes d'angoisses quand j'ai cette odeur de chlore à côté d'une piscine. Et donc c'était assez difficile pour moi des fois le sport à ce niveau-là. Dans mon bulletin scolaire, quand il fallait choisir les options un peu plus tard, le sport était une option et j'avais gentiment fait remarquer que on me souhaite de belles aventures et des réussites scolaires dans d'autres matières, comme quoi j'allais pas forcément choisir le sport. Et en fait, ça m'a pris un moment pour retrouver sérénement mon lien avec le sport dans la vie. Aujourd'hui, je dirais que je suis quelqu'un de sportif. Je suis pas du tout quelqu'un de nul en sport. Mais cette idée de sport d'équipe, ce plaisir que j'avais dans l'école primaire et qui était vraiment bouleversé dans le secondaire, j'ai jamais pu le retrouver. Mais je retrouve l'identité sportive grâce au vélo, à la randonnée et à la natation. J'adore aussi les moments de natation en pleine mer l'été, le snorkeling que j'ai pu découvrir grâce au voyage plus récemment. Donc, je redécouvre tout ça. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu des moments un peu difficiles dans le secondaire et ces moments encore plus exagérés avec le sport. Donc, suis-je un nul en sport? Non, pas du tout. Et je dirais même, je pense qu'il n'y a personne qui est nul en sport. Mais il y a quelque chose dans le sport qui renvoie des images à notre être et à notre performance physique dans une équipe et aussi aux identités à renforcer masculinité et autres, qui des fois sont des émotions un peu brutales dans le secondaire et à l'adolescence qui ne sont jamais des moments les plus faciles dans la vie. Et il faut donc retrouver ce plaisir associé au sport un peu plus tard dans la vie.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
Je suis bénévole à Radio Campus dans l'émission Plan Séquence, l'émission sur le cinéma. Bien sûr, vu qu'on est à la radio, c'est difficile à voir, mais enfin, on m'a souvent dit que j'étais en surpoids. Et ça a largement impacté ma relation au corps et au sport. Je pense qu'aussi loin que je puisse m'en rappeler, j'ai toujours eu l'impression d'être nulle. Après, je sais pas si la nullité c'est intrinsèque à ma personne en sport. Par contre, oui, souvent mise en échec dans le sport, ça c'est quelque chose qui dont je me rappelle et que je maintiens. Je pense qu'on m'a jamais mise en confiance dans le sport. Ça c'est une certitude. Je pense à l'école. Dès qu'il y avait, c'était dans un cadre de notation comme ça et puis de représentation, parce que l'école c'est un petit théâtre, quoi, et de performance. Alors, il y avait des sports dans lesquels je me débrouillais, comme par exemple, je sais pas, moi, la natation, j'ai jamais été nulle, mais j'étais pas brillante, quoi. J'étais pas très performante, je me débrouillais. J'arrivais toujours à m'en sortir avec une petite moyenne. C'était vraiment que dans certaines disciplines, dans d'autres, j'étais vraiment, j'avais des mauvaises notes, et puis, bah, forcément, avec les mauvaises notes, bah, t'as l'estime de toi aussi qui est dans au niveau des chaussettes, donc bah forcément ça t'invite pas à te dépasser. Vu que j'avais des mauvaises notes et vu que je me sentais pas en confiance et vu que je sais pas, t'es toujours la dernière choisie pour faire une équipe par exemple, bah tu te dis ouais, non, en fait c'est une réalité, je suis vraiment nulle, quoi, le sport c'est pas fait pour moi. Et je pense que la mise en confiance, ça passe déjà par l'enseignant. Et puis ensuite, que ça tombe un peu en cascade aussi sur ses pairs, sur les gens qui sont avec toi en classe. Mais ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et je pense que d'ailleurs, j'étais au collège il y a quelques années maintenant. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Bon, bah, il y a ceux qui sont très très bons au sport et qui plafonnent et qui en mettent un petit peu plein la vue. Et puis, bah, il y a tous ceux qui se laissent mettre en retrait parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont peut-être pas voix au chapitre ou qui vont ralentir les troupes ou que sais-je encore. Il y a vraiment pour moi cette idée de mise en confiance et de bienveillance et d'accessibilité aussi dans le sport, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit un peu plus, tu vois, profilé et pas juste le foot c'est ça, et puis si t'arrives pas à courir et si t'arrives pas à mettre, enfin je caricature pour le foot, mais ça marche pour toutes les disciplines au final, c'est vraiment cet idéal de la performance, et ceux qui restent sur le carreau au final, bah, se considèrent, je pense, comme nuls, voire très nuls. Je pense que ça serait bien, par exemple, d'amener les plus introvertis, les moins en confiance, les moins ceux voilà, qui paraissent les moins débrouillards, entre guillemets, même si c'est pas un terme très heureux, mais de les mettre au centre, en fait, du jeu ou de la discipline qu'on est en train de voir, et peut-être faire, je sais pas moi, des duos avec des élèves qui sont plus à l'aise, avec d'autres qui sont moins à l'aise, et puis tout simplement essayer d'être en bienveillance, en duo, essayer d'expliquer les choses et pas forcément être, il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Je pense que ça passerait vachement par s'épauler, tout simplement.
Alors de dire aussi arrêter de demander aux deux meilleurs de la classe en sport de faire les équipes.
Par exemple, ça serait bien, parce que en fait, ça, je trouve que ça sert absolument aucun propos. On va effectivement se retrouver, il y aura forcément des élèves laissés sur le banc, quoi. Et c'est, pour l'avoir vécu moi, c'est très désagréable. Enfin, c'est vraiment, c'est pas que c'est désagréable, même que c'est honteux. On se sent hyper mal, parce que c'est pas juste ne pas être choisi pour jouer au volley. C'est ne pas être choisi tout court, et c'est hyper violent. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, surtout quand on est enfant, voire ado, je trouve très destructeur au final d'être le dernier, là, qui attend, qui poirote. Alors, je faisais de l'UNSS le mercredi après-midi, et je me rappelle, il y avait des filles de ma classe qui participaient aussi à l'UNSS. Et,
c'est quoi ?
L'UNSS, alors je sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais c'est en gros le sport extrascolaire. Donc tes parents payent un petit ch'touille en plus, et ça te permet d'avoir accès au gymnase, et t'es encadré en général par un prof de ton collège ou de ton lycée. Et du coup, je m'éclatais, j'adorais les barres parallèles. Alors, je faisais rien de particulier dessus, hein. Je faisais juste des galipettes autour des barres, et je trouvais déjà que c'était un petit peu le comble de la classe. Et je me rappellerai toujours, mon prof me disait, Sarah, il faut impérativement que tu te cramponnes, ton corps doit être une planche, et quand tu redescends, ton corps doit être tendu, quoi. Sauf qu'en fait, moi, j'y arrivais pas, quoi. Et je voyais des filles, des gazelles dans ma classe ou qui étaient à l'UNSS comme moi et qui montraient, si tu veux. Mais sauf que, bon, elles, c'était tout en retenue, tout en... Tu vois, c'était gainé, quoi. Et moi, j'étais complètement incapable de ça. Donc, en général, je me rétamais sur le tapis. Mais j'étais très contente de moi, parce qu'au final, j'avais quand même réussi à faire une galipette. Je me rappelle aussi du cheval, tu sais, où tu sautes sur le trampoline, puis tu dois sauter par-dessus. Et en fait, je courais et je freinais juste avant le trampoline. Et j'ai jamais réussi à sauter le pas, jamais. Donc là, dans ces moments-là, tu te dis, je suis nulle, quoi. J'arrive juste à courir jusqu'à mon objectif avant de freiner. Ah oui, c'était la peur, et puis peur de me faire mal, déjà, peur de me ridiculiser aussi. Je pense. Il y avait aussi du monde autour. Donc forcément, c'est un facteur où tu te dis, je m'éclate et en fait, je me ridiculise devant tout le monde. Je vais probablement faire un truc tout pété quoi qu'il arrive. Donc ouais, il y avait ces deux peurs, peur de me faire mal et puis aussi peur de me ridiculiser. Donc ça me brimait vachement au final. Je pense que si t'es en confiance, tu peux te dire, allez, vas-y, j'essaye, quitte à me rater, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a eu la piscine. C'est la piscine bien nulle aussi, quoi. Quand tu sais, t'apprends à on te file un mannequin pour faire du sauvetage, là, le rétropédalage. En fait, moi, c'était le mannequin qui me sauvait. Enfin, c'était terrible, quoi. En plus, tu peux pas te servir de tes bras, parce qu'il faut quand même que tu tiennes la victime présumée dans tes bras, et du coup tu nages comme une grenouille. Mais si je peux me permettre, j'ai un très bon souvenir en sport. Et la grande Sarah, vraiment, a toujours beaucoup d'admiration pour la plus petite. J'étais en sixième, donc je devais avoir 11 ans, et on faisait de l'endurance. Et je me rappellerai toujours, l'endurance, c'est très pénible, parce que tu dois respecter une certaine fenêtre de temps. Si tu dépasses complètement ou si t'es trop lent, tu as une mauvaise note, quoi. Et je me rappelle, ma prof nous avait dit, vous pouvez courir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, du moment que vous restez régulier, dès que vous passez la ligne d'arrivée. Et moi, vu que je me sentais très nulle, mais je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'en découdre, quoi. La petite grosse de la classe m'avait décidé que c'était terminé et que je me ferais plus bolosser. Et j'ai dit à ma prof, je prends le créneau le plus long. Et là, ma prof me regarde, elle me fait, Sarah, enfin, tu pourras pas courir une demi-heure, enfin. J'étais, ah, si, je vais y arriver. Et alors, j'ai couru pendant une demi-heure. Donc, toutes les gens de la classe, moins idiots, enfin, c'est pas de l'idiotie, mais on choisit évidemment des créneaux hyper courts, tu vois, 5-10 minutes, grand max. Moi, je suis la seule qui a pris une demi-heure. Donc, évidemment, tout le monde, à la fin, me voit courir seule. Et mais je tiens le bon bout et ma prof me dit lâche rien, c'est parfait jusqu'à ce moment, enfin tu peux te taper 20 là, donc vas-y lâche rien. Et il y avait que 5 filles dans ma classe de 6e, elles ont toutes quitté leur banc pour venir courir avec moi les derniers tours et j'ai eu 20. J'ai eu 20 en endurance, ça c'est un super, j'ai plié le game ce jour-là.
Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis bibliothécaire et en tant que tel, je ne suis peut-être pas sportif, mais il faut que je sois musclé parce qu'il nous arrive souvent d'avoir à porter des cartons de documents, en particulier des livres, et le papier, ça pèse lourd. Et à supposer que je sois musclé, ça ne m'empêche pas de ne pas aimer le sport et d'être un très mauvais sportif. En fait, j'ai pas forcément toujours été nul en sport. Je me souviens que quand j'apprenais le tennis, ça devait être ma deuxième année. On avait mené un petit tournoi entre clubs d'un niveau tout à fait indigent et j'étais parvenu à arriver deuxième. Donc j'étais très fier de moi. L'honnêteté me contraint à préciser que j'ai dû cette deuxième place à la faveur de l'arbitre qui était un des autres participants et qui avait estimé, alors que ma balle était passée à travers un des trous du filet, qu'elle était arrivée de l'autre côté du terrain de façon parfaitement régulière. Donc j'étais assez soulagé, parce qu'en face de moi, j'avais un petit gars qui bougeait pas beaucoup, qui faisait à peu près aussi sportif que moi, mais dans un autre genre. Et à chaque fois qu'on arrivait à marquer un point, il trouvait toujours le moyen de remporter le point suivant. Donc il talonnait toujours, c'était assez agaçant, parce que on se disait que bon, on en ferait volontiers une bouchée, et puis ben non, il s'accrochait. J'étais quand même fier de moi, d'en être venu à bout, même si c'était au prix d'une friponnerie non préméditée. Après, je me souviens avoir discuté de ces graves sujets avec une copine il y a quelques années, elle me disait « Oh toi, si t'aimes pas le sport, c'est probablement parce que tu n'as pas l'esprit de compétition ». Et effectivement, je n'ai pas l'esprit de compétition. Alors, c'est sûr que, voilà, dans des circonstances comme celles que je viens de décrire, peut-être que le fond d'esprit de compétition qui, malgré tout, réside dans un coin de mon cerveau, se réveille mollement, maladroitement, mais suffisant pour me doper un petit peu. Mais en dehors de ça, c'est vrai que arriver premier ou deuxième à une course où de toute façon je m'étais pas vraiment entraîné, pour moi ça avait pas réellement d'intérêt.
Écoute Jody, je suis trop intelligente et trop sensible pour vivre dans un monde comme le nôtre à une époque comme la nôtre avec une sœur comme la mienne. Peut-être que je rate un tas de bonnes choses, mais cette attitude est la seule que je puisse adopter.
Est-ce que je suis nul dans tous les sports ? En fait, il faudrait que j'en ai pratiqué beaucoup pour pouvoir répondre à la question. On va dire que sur la faible quantité de sports différents que j'ai eu l'honneur de pratiquer, j'ai jamais été particulièrement bon et je pense que les rares fois où j'ai brillé, c'était sur des coups de chance et j'ai soigneusement tenu à ne pas trop prolonger le jeu, histoire qu'on se rende pas compte qu'en fait j'étais nul. Alors, en baseball, je suis plutôt très bon, en particulier pour suivre les matchs à la télé, en grignotant des chips et en buvant des bières. De toute façon, si ça dure à peu près 3 heures, parfois plus, c'est essentiellement pour ça. Le football, on fait à peu près la même chose, mais c'est court. Ça dure 1h30, plus une mi-temps avec de la pub, donc ça c'est très gonflant. Et on n'a pas vraiment le temps de se poser et de savourer ce qu'on déguste. L'intérêt du football est ailleurs. Et je me souviens d'un copain qui était grand amateur, qui suivait tout ça, qui avait des discussions enflammées au sujet des équipes, des joueurs, qui savait très bien qui occupait tel poste dans telle équipe, etc. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais été capable de retenir, tout simplement parce que je m'en fous. Et un jour, je lui ai dit « Si, j'aime le football. » Alors il me dit « Ah, explique-moi tout ça, machin. » Et en fait, je lui ai dit « Pour moi, c'est vraiment un moment de détente fabuleux. » Parce que, alors évidemment, il ne s'agit pas de le regarder en stade. Hein. Alors les deux fois où j'ai été contraint de voir un match de foot en stade, ça a été vraiment une souffrance pour moi, parce que Assez régulièrement dans ma vie, j'ai le sentiment d'être un extraterrestre, mais là, j'étais sûr que j'en étais un. C'était vraiment pas à ma place. Mais je le dis sans jugement de valeur par rapport aux autres personnes qui étaient contentes d'être là, mais vraiment, j'étais pas à l'aise. Et puis en plus, on voit rien. Donc à la télé, on voit bien tout. En plus, il y a des mecs qui nous expliquent parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et il y a cette couleur verte magnifique qui remplit tout l'écran. Alors, il faut savoir que le vert, c'est une couleur qui est très stimulante au niveau biologique, puisque c'est elle qui stimule le plus de cellules sensibles aux couleurs sur la rétine. Et en même temps, psychologiquement, c'est une couleur très apaisante. Donc, on fait faire du sport à ses yeux et on fait décompresser son cerveau. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, voir tous ces petits bonshommes qui s'agitent là, c'est un peu comme regarder des poissons dans un aquarium. Et j'avoue qu'il y a quelques fois où je songeais à des problèmes en regardant un match de foot, là je pouvais vraiment faire le vide dans ma tête et j'arrivais à trouver la solution à mes problèmes en l'espace d'une mi-temps. Donc pour ça, le foot, c'était très bien. Et j'aimais aussi souvent baisser le son et écouter de la musique tibétaine, de monastères tibétains en regardant les matchs de foot. Donc ça complétait un petit peu l'arsenal de détente un peu zen, et pour moi ça fonctionne très bien. Et donc j'explique tout ça à mon pote, il réfléchit un petit moment en se caressant le menton, puis il me regarde avec un petit sourire condescendant, il me dit « Mais en fait, t'aimes pas le foot ?» Je veux bien le reconnaître. Est-ce qu'il y a une discipline sportive où vraiment je me surpasse ? C'est probable, je dirais le paraître, car il se trouve que je posais toujours le porte-clés que ma maman m'avait acheté quand j'ai eu mon premier trousseau de clés, que je rentrais tout seul comme un grand à la maison de l'école. Et malicieuse, elle m'avait acheté un porte-clés sur lequel était écrit sur un beau fond vert pomme bien flashy « Le plus sportif ». Donc je l'ai bien pris, hein, et j'y suis resté attaché, donc il est toujours à la maison avec moi. Et est-ce que ça me résume bien? Je dirais oui, dans la mesure où j'aime beaucoup le vert.
Je m'appelle Nicolas, je viens souvent ici pour l'émission de cinéma, donc dans séquence, et sinon voilà, je suis bibliothécaire, je suis un ancien prof de français. Alors, est-ce que j'ai toujours été nul en sport? Non, je pense pas. Quand j'étais... Alors moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai beaucoup d'écart avec mon frère et ma sœur, et ça fait que je pense que quand j'étais petit, je courais un petit peu partout, tout ça. Et peut-être un peu en grandissant, je me suis un peu calmé à un moment et je sortais juste un petit peu pour jouer avec les animaux, me balader, mais c'était pas non plus hyper sportif, on va dire, c'était pas extrême. Et mon père me disait souvent, mais va faire du vélo, mais je voyais pas l'intérêt tout seul en fait. Donc c'était plus un univers fait de lecture, de dessins animés, puis voilà, de jouer un peu dehors avec les... ou de chercher des lézards, des choses comme ça. Mais c'était pas du sport extrême. Sinon aussi, mon père, il était boxeur, en fait, quand il était jeune, plus jeune. Et c'est vrai que je pense qu'il avait du mal à s'imaginer un enfant calme, on va dire, quelqu'un qui restait tranquille. Donc c'est moi, je sais pas comment mon frère et ma sœur ils jouaient ensemble, mais moi j'ai trouvé des activités un peu plus tranquilles, on va dire. Alors à l'école, on faisait juste de la balle aux prisonniers, du lancer de javelot, et tout se passait très bien. Sinon, un jour, mon père m'a inscrit dans un club de foot, je courais pas très vite, tout ça, et j'avais pas la, on a fait quelques matchs, mais j'avais pas la hargne, on va dire. Et un jour, je me suis fait éclater le nez en essayant de faire une tête, et il y a mes lunettes qui étaient un petit peu cassées, donc on a arrêté. Mais ça s'est révélé au collège, oui, en fait, le gros souci. C'était une période où j'avais pris du poids, hein, parce que ma maman avait un restaurant à un moment, donc je mangeais bien, tout ça, et forcément, avec le peu d'activité que je faisais, voilà. Et j'étais un peu plus rond, et pendant l'adolescence que ça s'est révélé, surtout pendant le sport au collège. Il y avait eu une visite médicale un jour, et on m'a annoncé que j'avais une surcharge pondérale de 25 kilos. C'est surtout en sport que ça se passait mal, et je me rappelle par exemple du saut en hauteur. Le saut en hauteur, donc il fallait sauter par-dessus l'élastique, il fallait prendre son élan, et je me rappelle que j'arrivais jamais à aller plus loin que l'élastique. Je retombais sur l'élastique, et je me rappelle encore que ma seule crainte, c'était au moment où je retombais, c'était de rabattre mon t-shirt pour pas qu'on voit mes bourrelets, en fait. C'était ça le qui me faisait le plus peur. Après, je savais de toute façon que j'allais pas aller plus loin que l'élastique, donc voilà, ça faisait un plop comme ça. Et pour le sport en hauteur, il y avait aussi le sport, le saut avec rebond. Je sais plus trop, on rebondissait sur un truc, il fallait sauter par-dessus quelque chose. Et donc, souvent, je me prenais l'obstacle. Il y a eu aussi l'endurance, forcément, ça c'était assez dur. Donc en plus, je m'économisais un peu pour pas trop suer, parce que je suais beaucoup, donc c'était un peu pénible. Le pire du pire, c'était quand même la gymnastique au sol, parce qu'il fallait faire... Je me rappelle qu'il y avait tout un programme, le plus dur, c'était... il fallait que je fasse une roulade avant, arrivée écart. Et ça, c'était super dur, enfin, j'ai jamais vraiment réussi. Je m'entraînais chez moi, je me faisais mal à la nuque, tout ça. Enfin, si j'avais été entraîné à être souple avant, ça aurait été possible. Mais c'est vrai que là, non, c'était pas. Je découvrais ça d'un coup comme ça et j'y arrivais pas vraiment. Et voilà. Et sinon aussi, ce qui était compliqué, c'est que j'osais pas prendre ma douche avec les camarades parce que mon corps était un peu différent. Mais ça, c'est autre chose. L'endurance, on courait autour du gymnase, mais c'est selon sans doute un programme scolaire que j'ai pas cerné, et je réfléchissais tout à l'heure avant de venir, est-ce qu'il y a une solution à ça, est-ce qu'on peut faire autrement, et je pense pas vraiment en fait, parce que si on met ceux qui ont un peu de mal, si on les met de côté par exemple, c'est humiliant aussi. Si c'est surveillé un petit peu plus pour pas qu'il y ait trop de moqueries, par exemple, par le prof, c'est possible aussi. Moi, je me rappelle que mon prof, il avait dit, pour l'endurance, il avait prévenu les autres élèves qui pouvaient être un petit peu moqueurs, il avait dit, ne vous moquez pas, on sait qu'il a des problèmes. Donc, c'est ça qui avait été dit. Donc, et en fait, les gens se moquaient un petit peu au début, mais après, en fait, ils osaient même plus, en fait, ils se disaient, oh, le pauvre quand même. C'était un peu. C'est très lié à l'adolescence, on est en pleine mutation et en même temps, on est tous un petit peu en train de se comparer. Donc, c'est. En plus, du coup, il y a des choses, comme on a dit, des épreuves de sport assez mesurées, cadrées. Tout peut pas fonctionner, on va dire. C'était un peu obligé que tout se passe pas bien, quoi. Enfin, c'était inenvisageable que tout soit cool, quoi. Donc. Je pense que du coup, c'est un truc qu'il faut prendre un petit peu sur soi. C'est après toute la période scolaire, même après le lycée, que j'ai fait du sport tranquillement, tout seul, en faisant des footings, du vélo, tout ça. Mais c'était parce que ça me faisait du bien. Mais sinon, non, pas les sports collectifs, je pense que j'y irai jamais, quoi. Au lycée, au tout début, quand j'étais en seconde, j'étais dans un bâtiment de foot, de sport-études. Donc, c'était un peu spécial aussi. Là encore, j'étais pas forcément super accepté parmi eux, ça s'est bien passé quand même. Mais j'étais un peu un extraterrestre pour eux quand même. Et après, c'était en première, j'étais avec des arts appliqués. Ça s'est un peu mieux passé. Et sinon, en sport, j'ai pas vraiment de souvenirs du lycée. Je crois qu'on était tous plus ou moins nuls, en fait. On était entre aux classes de littéraire et tout. Et il n'y avait pas de grandes différences, on va dire, de performance en sport. Et aussi, en fait, j'ai pas fait énormément de sport au lycée parce que j'avais eu un accident et que du coup, j'ai été dispensé pendant un bout de temps. Mais sinon, j'ai l'anecdote d'une amie, par exemple, qui savait pas nager et il fallait aller à la piscine à un moment. Et du coup, elle, il l'avait un peu mise dans le petit bain en attendant, tu vois. Ce que je disais, c'est si on me met de côté, c'est pas bien non plus. Donc, comment faire?
Et est-ce que le fait justement de se sentir ridicule ou humilié dans ce cadre précis du sport, est-ce que ça a des impacts sur d'autres endroits en fait de sa vie ?
Ouais, bien sûr. Je pense que par exemple, tu vois, ce qu'on a tous plus ou moins vécu à la piscine,
Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi, que je vis dans ma vie d'adulte. Aller à la piscine, c'est hyper compliqué, quoi. C'est pas comme la plage, mais la piscine, il y a une espèce c'est une espèce de huis clos un peu moite, là, où les gens se regardent. Et puis, bah, t'as les super bons nageurs, les gens très, très bien, excusez-moi, gaulés, quoi. Et puis, bah, en fait, moi, il y a des trucs, ça m'a vachement, en fait, ça stigmatise, je pense que ça pose les jalons de certaines choses, le sport à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, et t'en gardes pas forcément un très bon souvenir par la suite, puis ça te suit dans ta vie d'adulte. Je pense à la piscine, mais il y a d'autres trucs. Tu vois, il y a quelques années, j'ai voulu retourner à la salle, enfin retourner, j'y suis jamais allée, mais aller à la salle pour la toute première fois, et ayant le corps que j'ai, j'avais très honte d'aller m'inscrire, parce que je sais pas, je m'étais un peu dit que les gens allaient me regarder, et tout de suite ça allait poser des trucs du style, ah bah si elle vient à la salle de sport, c'est nécessairement pour perdre du poids. Mais c'est des idées que j'avais dans ma tête, je dis pas que c'est vrai, tu vois, nécessairement, mais c'était l'idée que je m'étais faite de la salle. Et au final, je me suis inscrite avec un copain, on y allait tous les deux, et on, pas pour dire qu'on s'éclatait, mais en tout cas, on suait gros, et on était hyper satisfaits, hyper contents de nous, hyper fiers. Mais je crois que j'ai réussi à passer pas parce qu'il était avec moi toute seule. Je crois que je me serais laissée complètement embobiner par mes idées qui datent très probablement de mes années collège-lycée, surtout collège. Et c'est extrêmement limitant. C'est vraiment très limitant, cette sensation de pas être à sa place, qu'on va être jugé. Tu vois, tout à l'heure tu me parlais de mauvais souvenirs. Je me rappelle aussi, tu sais, il y avait ce cours où il fallait qu'on fasse une chorégraphie, mais un peu gymnastique. Enfin, je sais, ça doit porter un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et je me rappelle, mais j'avais calibré toute ma choré avec ma copine. On était en duo. Et je me rappelle ce moment. Il faut monter sur la poutre. Et puis on avait prévu de faire un truc un peu en miroir, un peu stylé, en plus j'avais pris Britney, tu vois, pour me donner du courage, et en fait j'ai peiné, j'ai galéré, je m'y suis surprise à plusieurs fois pour monter sur la poutre, tous les gens autour de moi se marraient, tu vois, dont ma coéquipière, et là je suis en train de foirer ma choré, ça me rend, en fait ça te, t'es transi de peur en fait, et aujourd'hui je pense que même quand t'es adulte tu te dis, ah non mais ça c'est pas pour moi, j'oserai jamais, je le ferai jamais, j'aurai trop peur, qu'est-ce qu'on va dire de moi, en fait il y a des trucs, il y a énormément de trucs qui te restent de l'enfance et l'adolescence. À partir du principe qu'il n'y a pas de perdant, je crois vraiment que créer deux pôles de gagnant et perdant, ça plie le game, quoi. Enfin, ça foire tout de suite, ça biaise le rapport qu'on a avec le sport. Si on mettait avant toute chose la bienveillance, le jeu, l'exploration, la découverte, sa résilience propre, son endurance propre, mais aussi l'esprit d'équipe, je pense que si ces valeurs-là étaient portées, au nu dans le sport, il n'y aurait pas nécessairement cet esprit très compétitif. Je dis pas que c'est mauvais en soi, mais en tout cas, si ça laisse des marques, c'est quand même, il y a des gens qui ont été qui ont des mauvais souvenirs, quoi. Oui, je pense que c'est peut-être replacer le curseur sur certaines valeurs qui, alors ça paraît très cliché ce que je dis, mais ça fonctionne au final, tu vois, tout ce qui est par exemple handisport, enfin au final si tu mets les gens au cœur du truc et la rencontre, mais il se passe des trucs de fou, et je pense que tout le monde est très content de sa performance, qu'elle soit incroyable ou un peu plus modeste, je pense que tout le monde est content et tout le monde est satisfait. Mais du moment que tu as cette idée de perdre ou de gagner ou d'être valorisé ou d'être laissé sur ou laissé pour compte, bah nécessairement ça crée pour toi des pensées puis des choses limitantes dans la vie, quoi. Enfin on ose moins, on n'est pas moi je suis pas du tout en confiance par rapport au sport. Alors que pourtant, je suis en capacité de marcher, de courir. Je veux dire, il y a des trucs quand même que je gère, tu vois. Mais être en confiance et me dire, c'est bon pour toi, ça va te faire du bien. En fait, non, tout ça, moi, mon esprit est plutôt accaparé par, est-ce qu'on va pas se moquer de moi? Est-ce que je vais pas me ridiculiser? Est-ce que, enfin, tu vois. Moi, je pense pas que je sois nulle en sport, et je pense que vraiment personne ne l'est. Par contre, lié, enfin, disons que le sport me mettait pas en confiance par rapport à mon corps, parce que dans le sport il y a cette espèce d'idéal du corps qui arrive parfaitement à se mouvoir, qui fait les bons gestes, que ce soit de la danse, du cheval, de natation ou que sais-je encore, savoir synchroniser ses mouvements, être sûr de soi. Mais moi ça me mettait en PLS, quoi. J'avais vraiment très très peur, et forcément au collège, oui, j'étais je pense que ça peut aussi induire ça peut créer, en tout cas chez moi je pense que ça l'a fait, beaucoup de maladresse, très gauche. Après on dit souvent ça des adolescents, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un truc où on est un peu plus introverti, puis on est mal dans son corps, on est mal dans ses pompes. Je pense vraiment que le sport rajoute quelque chose de... je sais pas, c'est une connexion très intime que tu as avec ton corps à ce moment-là. Enfin, t'écoutes ta respiration, les battements de ton cœur, t'essaies de voir où ça fait mal, où ça tire, où est-ce que c'est désagréable, agréable après. Enfin, et donc il y a une connexion très forte avec le corps à ce moment-là. Mais si toi déjà t'as compris, on t'a fait comprendre que ton corps était déjà une entrave, forcément le sport c'est problématique, quoi. Alors il y a cette dimension-là de n'être que ce corps-là, que ce type de corps-là. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, en déconstruisant plus tard, quand t'es adulte, tu te dis, mais en fait, j'ai un corps formidable. Enfin, tu vois, je peux marcher, les gens qui ne peuvent pas marcher ont des corps formidables aussi, c'est pas le problème. Mais je parle dans mon cas, je me rends compte qu'il y a plein de choses que mon corps sait faire et fait intuitivement ou non. Il peut apprendre aussi. Et ça, c'est quelque chose que je tiens pas du sport au collège, quoi. C'est une certitude. Après, des profs bienveillants, j'en ai eu, hein, qui essayaient, qui étaient fiers, qui te valorisaient. Il y a eu aussi des profs vraiment qui n'étaient pas du tout dans cette mouvance-là, quoi. Te mettre en confiance, de t'expliquer calmement. Pour eux, c'est pour certains, c'était acquis ou ça ne l'était pas. Si ça ne l'était pas, t'allais être relégué en troisième ligne, et puis c'est tout, quoi.
Mes souvenirs de nullité sportive, alors j'ai quelques petites anecdotes révélatrices là-dessus. En particulier, ça devait être en quatrième, au programme du sport, on avait la course d'orientation. Alors la course d'orientation, c'était tout un univers, toute une institution. J'étais scolarisé dans les Hauts-de-Seine, à Antony, et pas très loin, on avait donc le parc de Sceaux, qui est un très très grand et très beau parc départemental, dans lequel, comme dans la plupart des espaces verts de ce genre-là, il y avait un ensemble de bornes avec des petits poinçons à aiguilles qui permettaient de faire des courses d'orientation. Donc nous, comme on n'était pas très loin, on allait faire ça là-bas, donc le prof nous emmenait à plusieurs classes. Un matin, on nous remettait au dernier moment, chaque équipe, sa petite boussole, son petit papier avec le point de départ et puis les indications pour trouver le sens dans lequel il fallait courir pour aller à la borne de l'étape suivante. Et puis, je sais plus, il devait y avoir les distances, Et moi, j'étais tombé évidemment dans l'équipe des gros nazes, c'est-à-dire des mecs qui tenaient pas la distance sur la course de fond et qui étaient pas bons en sprint non plus, histoire de faire bonne mesure.
Good afternoon and welcome to Brandley Park. And you join us just as the competitors are running out onto the field on this lovely winter's afternoon with the going firm underfoot and very little sign of rain. And it looks as though we're in for a splendid afternoon sport on this, the 127th Upper Class Twit of the Year show. And there's a big crowd here today to see these prize idiots in action. Vivian Smith-My-Smith, he's in the Grenadier Guards and he can count up to four. Simon Zinc Trumpet Harris, he's an old Etonian and married to a very attractive table lamp. Nigel Incubator Jones, his best friend is a tree and in his spare time he's a stockbroker. Gervais Brook Hamster, he's in the wine trade and his father uses him as a waste paper basket. And finally, Oliver St. John Mollusk, another old Etonian. His father was a cabinet minister and his mother won the derby and he's thought by many to be this year's outstanding twit. And now the twits are moving up to the starting line and any moment now they'll be under starter's orders.
Mais comme on n'avait pas des défauts pour tout, on était assez imaginatif et il y en avait même qui étaient bricoleurs. Donc il y en avait un qui était plutôt bon au jeu d'échecs et en maths, et l'autre qui était bricoleur. Le voilà qui, au moment du rassemblement, avant qu'on se mette en chasse, sort un petit appareil qu'il avait confectionné lui-même, qui était composé de deux petites plaquettes de carton assez fort. Et il avait ménagé un petit espace entre les deux à l'aide d'une cale. Et puis là, il avait reproduit le dessin des poinçons. C'est-à-dire, en fait, c'était 9 trous qui se répartissaient sur la surface d'un carré. Et avec une petite aiguille, on pouvait reproduire le dessin des poinçons qu'il avait relevé au préalable. Donc il avait une feuille avec le dessin de tous les poinçons qui étaient dans le parc. Donc on s'est trouvé un petit coin tranquille, ça n'en manquait pas, hein, on risquait juste d'être dérangé peut-être par les écureuils, et encore il fallait qu'il soit tôt. Et puis là, bah, le pote qui était bon en maths, il avait calculé les angles, les directions, et puis en fonction de ça, le copain qui avait son faux poinçon, il avait évalué la borne qui correspondait, et puis on avait tous, avec nos petites aiguilles, mis les feuilles dans l'appareil, et les feuilles dans lesquelles on était censé poinçonner quand on arrivait à chaque étape de la course d'orientation. Arrive la fin de quelques heures après, je ne sais plus combien de temps, peu importe, la fin de la course. Donc on devait arriver, on devait être avant-dernier, on avait couru un petit peu histoire d'être bien rouge et un peu essoufflé. Et puis on rend notre feuille, et là tout le monde était quand même assez admiratif parce qu'on était la seule équipe à avoir tous les poinçons. Et ça a semblé d'autant plus incroyable que, en fait, ce qu'ignoraient nos profs de sport quand ils ont déterminé les points par lesquels on devait passer, c'est qu'il y avait une des bornes qui était cassée, donc sur laquelle on ne pouvait pas poinçonner la feuille. Et on avait été les seuls à y parvenir, donc tout le monde se demandait bien pourquoi. Alors nous, on était là, oh bah, c'est-à-dire que non. Et puis finalement, on a plaidé pour voilà, une confusion, qu'en fait, on était allé sur une mauvaise borne et puis qu'on avait mis notre papier dans le mauvais sens sous la balise, ce qui en fait n'était pas possible, qu'on avait poinçonné, puis que bon, bah, étant donné que c'était pas dans le bon sens, mais que le dessin était le même, eh ben, on croyait qu'on était passé sur la bonne borne. Donc, les autres étant moins retors que nous, ils n'ont pas dû penser qu'on avait triché, alors même que je pense que les profs avaient eu une forte suspicion, et bon, on a quand même eu une note de merde parce qu'on était arrivé avant-dernier, mais on s'en est sorti quand même avec les honneurs. Mais c'était quand même beau, grand et fort, je trouve, d'avoir réussi à fatiguer notre cerveau, et encore, je dirais, celui d'une des personnes présentes, parce que les autres étaient là et attendaient gentiment qu'il fasse ses calculs en racontant des histoires, comme je le fais maintenant, et puis à s'en sortir malgré tout, en ayant un petit peu couru.
Quand tu étais prof, est-ce que tu... Quel regard tu portais sur tes élèves? Est-ce que tu arrivais à en distinguer certains, ou tu te disais, ah là, cet élève-là, il a peut-être, peut-être une sympathie, en fait, parce que tu en supposais certains un peu d'une difficulté en sport?
Ah oui, bah ça, c'est, y en avait, j'ai le souvenir de quelques-uns, oui, que c'était à peu près obligé qu'ils avaient du mal en sport, mais comme beaucoup, ils jouent de l'humour pour se sortir un petit peu de tout ça, et non, il y en a qui s'en sortaient bien, hein. En fait, ils s'en fichent, quoi. Enfin, il y en a qui avaient l'air de s'en fichent pas mal, et ils étaient dans leur personnage, et les autres se moquaient même pas, en fait. Ils étaient assez bien acceptés. Je pense que... Mais ça dépend un peu des établissements aussi. Hein. Il y a peut-être un rôle de l'établissement, il y a peut-être une prévention à faire, il y a peut-être les profs qui peuvent, par exemple, oui, suivre un peu les élèves et leur demander comment ça se passe pour eux, tout ça, mais je crois que c'est... parce que pour en avoir parlé un petit peu avec d'autres personnes, c'est vrai qu'en gros, le sport au collège, quand on n'est pas bon, c'est une période compliquée, quoi. Mais c'est justement en me rappelant de ça, cette période de collège, c'est vrai que c'est assez dur de se positionner en tant que... Alors que garçon, moi je dis ça parce que c'est ce que je connais, se positionner en tant que garçon quand on n'est pas bon en sport, parce qu'il y a... plein d'icônes sportives, on avait aussi les marques qui habillaient les grands sportifs, tout ça, les gens qui voulaient tous être habillés en marque à l'époque. Il y avait aussi les boissons qui montraient, enfin qui étaient appuyées par les sportifs. Moi, quand j'étais au collège, il y avait le film Space Jam aussi qui était sorti, tout le monde voulait faire du basket. Et je me rappelle que même dans ma chambre, j'avais un petit poster de, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Streetball, c'était Fido Dido avec un panier de basket qui disait Streetball, mais rien que le nom, ça donne soif. J'avais ça en poster dans ma chambre alors que j'étais, je crois que j'ai jamais réussi à mettre un panier de ma vie, quoi. Et enfin, oui, c'est vrai qu'il y a sans doute une injonction. Même du coup, même si on n'est pas bon en sport, on est attiré par le sport dans les jeux vidéo ou dans plein d'autres trucs. Mais oui, la performance physique est mise en avant et elle définit un petit peu les certaines qualités humaines pour certains. Oui, c'est sûr. Des fois, on a du mal à comprendre pourquoi les gens ne sont pas passionnés par la même chose que nous. Donc, je pense que ça peut arriver aussi, on va dire. Les sportifs en tant que tels, bon, ouais, ça ne me dérange pas. Enfin, les profs de sport, comme j'ai dit, il y avait ce monsieur qui avait dit qu'il ne fallait pas se moquer de moi parce que j'avais des problèmes. Il a essayé de bien faire. C'était bienveillant, c'était maladroit, mais c'était quand même gentil. Mais non, pas de dents contre eux. Je pense que c'est des gens qui étaient dans leur truc, quoi. Alors, est-ce que je suis sportif aujourd'hui? Est-ce que faire un footing et aller au travail en vélo, c'est être sportif? Moi, j'ai envie de dire pour moi, oui. D'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure, mais c'était j'étais sorti avec une fille qui faisait du tennis et elle me disait que mon sport, c'était son échauffement. Moi, le trajet que je faisais en footing, c'était son échauffement, quoi. Mais sinon... Oui, je suis bien plus sportif, entre guillemets, aujourd'hui que quand j'étais ado, tout ça. C'était un peu pour, même aussi, donc le petit footing de temps en temps, pour être en forme, voilà, ou pour la bonne conscience. Le sport, pour moi, toujours avec des guillemets, hein, ça s'est révélé quand j'ai voulu, en fait, et c'était du sport tout seul. Ça m'a pris le temps, mais j'ai fait quand j'en ai eu envie, quand j'en ai eu besoin et quand il n'y avait pas de 1000 regards sur moi en train d'essayer de me dépatouiller, quoi. Enfin, donc voilà, juste ce que je me disais, c'est peut-être la solution, c'est de laisser le temps aux gens pour qu'ils aillent vers le sport quand ils en ont besoin ou envie. Mais les forcer, c'est pas terrible, quoi. Alors, en challenge, j'en ai déjà relevé un, en fait. J'ai fait... j'avais essayé les 10-20 km de tour, donc je m'étais inscrit aux 10. D'ailleurs, anecdote, j'ai fini, selon la NR, j'ai fini troisième, ce qui est faux. En fait, c'était, je suis arrivé, je finissais mes 10 km en même temps que tous les Kenyans qui couraient à fond, et je suis arrivé en même temps qu'eux qui finissaient leurs 20 km. Et du coup, j'ai été pris dans les 20 alors que je finissais mes 10, et j'ai eu une petite médaille. Et après, ils ont rectifié ça je sais plus, sur Internet, ça avait été rectifié. Mais sinon, j'avais fait ça donc à l'époque. Oui, c'est ça, je m'étais inscrit pour 20, mais j'en ai fait que 10. Bon, ça, c'était il y a très longtemps, en 2004. Mais sinon, c'était en 2019. J'ai fait les 10 km de tour et je l'ai fait en un peu moins d'une heure. Juste un tout petit peu moins d'une heure, on va dire 59 minutes. Et je me rappelle que j'aurais pu faire un meilleur temps si j'avais pas tapé dans les mains des gens qui me l'étendaient et tout, parce que je crois que c'était quelque chose qui me faisait plaisir. Même des fois, je faisais demi-tour parce que j'avais loupé la main d'un enfant qui avait été un peu déçu. Mais donc, s'il y avait un truc, j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire aux 10-20 km de tour, donc 10 pour moi, et qu'on pouvait essayer de faire un certain temps. Donc moi, ce serait 10 km en 50 minutes et ce serait trop, très très bien pour moi, quoi. Ma victoire. Alors, s'il y a des collégiens, ouais, nuls en sport et qui m'écoutent, ah, c'est émouvant. Moi, je leur dis déjà de laisser couler, hein, de prendre le temps, que voilà, c'est une mauvaise peut-être période à encaisser et que c'est pas pour ça qu'ils seront nuls toute leur vie et que c'est pas que le sport n'est pas non plus quelque chose qui décide si on est nul ou pas, en fait. Donc, vous pouvez être nul en sport si vous voulez, mais vous n'êtes pas nul globalement, j'ai envie de dire. Vous êtes quand même une belle personne, je pense. Si vous n'aimez pas le sport, ne vous forcez, enfin, ou même tout ce qui est autour du sport, on va dire, les matchs de foot, si vous n'aimez pas les regarder, tout ça, n'essayez pas de vous forcer à vous intéresser à tout ça pour vous faire des amis. C'est tout ce que je veux dire, parce que moi, j'avais une collection de cartes NBA alors que j'avais horreur de ça. Enfin, bref. Voilà, un petit groupe de geeks.
Rosa, 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 rosa. uit een grijs verleden die de schooljeugd van het heden op moet dreunen als gebeden. Begin te leren van Latijn, tango van de lyceïsten, die hun jeugd eraan verkwisten en die dokteren aanlisten om te ontkomen aan die pijn. Tango die gestrenge ouders laden op de smalle schouders van hun keesjes die de houders van het roer der toekomst zijn. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango van de knappe verloppen, die met bukkels op hun koppen hun gebrek aan ziel verkroppen als de besten van de klas. Tango van de slappe kezen, die geen letter kunnen lezen, maar straks dokter moeten wezen, omdat papa dat nooit was. Tango die ik niet meer leerde, daar ik toen al beleefde, en verbuigingen begeerde.
Actuellement, je dois dire que je m'astreins à me dire qu'il faut que je fasse un petit peu d'exercice de gymnastique. Alors j'ai un beau tapis, j'ai des haltères, on caste sur la télé des replays d'émissions de gym. Alors il y a des spéciales abdos, des spéciales gainage. Des spéciales corps complet, etc. Je le fais pour me donner bonne conscience parce que j'arrive pas à tenir un rythme régulier de une séance tous les deux à trois jours, alors qu'il faudrait simplement, parce que je suis grand, pas musclé, que je pratique un instrument de musique sur lequel mon seul appui, en fait, c'est mon bassin et le bas de mon dos, et qui me contraint à certaines torsions. Et il y a des fois, quand on travaille des nouveaux morceaux et qu'on est un petit peu crispé, Le dos a très mal et malgré ça, j'arrive pas à trouver la motivation suffisante pour me mettre à ce peu de sport-là, tout simplement parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Je peux rien lire pendant que je fais ça. Alors je peux écouter de la musique, mais je fais pas les choses en rythme, alors c'est un peu bizarre. Et pour moi, c'est assez pénible. Je dirais que voilà, je le fais juste pour tenir la forme, et que alors même que au temps de ma splendeur, j'avais réussi à m'astreindre à 1h30 de course de fond par semaine, à raison de 2 séances par semaine, où je faisais le tour du fameux bassin de ce fameux parc de Sceaux, qui est quand même un endroit qui est très beau et très agréable.
Vous ne le croirez pas si je vous le disais. Mais je cours comme souffle le vent.
J'ai jamais ressenti, même au temps de ma splendeur sportive, cette espèce de dépendance dont parlent beaucoup de sportifs, même amateurs. Là, j'avoue que si l'héroïne c'est pareil, je peux m'y mettre demain sans danger, parce que je n'ai jamais. Même un instant, eu un soupçon de semblant, d'impression que je commençais à développer un début de dépendance au sport. Donc là, zéro, niet, j'arrête quand je veux. D'ailleurs, j'ai arrêté quand je veux. En revanche, j'arrive pas à m'y remettre quand je veux. Alors c'est sûr que j'aimerais être plus sportif simplement parce que je serais certainement mieux dans mon corps, j'aurais moins mal à mon corps, je serais peut-être... Je ressemblerais plus à un top modèle, parce que là, c'est pas vraiment le cas. Après, je dois dire que il y a malgré tout des moments, alors quand on est en vacances avec ma femme, qui, elle, est une sportive, on dit que les contraires s'attirent, c'est probablement vrai, puisque là, alors même que je vous parle, elle est en train de participer à un tournoi de softball, puisqu'elle est membre de l'équipe de softball de Jouer les Tours, les Coyotes. Elle aime bien bouger, elle aime bien faire du sport, et en plus elle a cette espèce d'état de grâce de tous les gens qui sont naturellement sportifs, que ça soit le ping-pong, la course de fond, le baseball, la pétanque, le tennis, elle est douée dans tout ce qu'elle fait. Donc là, moi je suis un peu disons que je la mets en valeur par mes performances à moi, mais il est vrai que lorsqu'on est en vacances, l'essentiel de notre temps, on le passe à faire de très grandes marches, de préférence en lieu vallonné, en montagne. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout simplement parce que bah, moi, c'est l'attrait du paysage et du changement dans les paysages. Et alors même que bon, le soir et le lendemain aussi, tes jambes te disent tu as fait de l'exercice, pour moi, je ne l'envisage pas comme un sport. C'est plutôt un moment réflexif, un moment philosophique. En ça, je suis assez nietzschéen. Lui-même, Nietzsche, c'est un gars qui, alors qui a beaucoup, beaucoup voyagé en Suisse et dans les Alpes italiennes, et donc qui pensait beaucoup en marchant dans la montagne, et d'ailleurs qui l'a écrit, hein, pas une bonne pensée qui ne vienne en marchant. Donc j'avoue que je partage ce point de vue-là, même si je ne suis pas un grand philosophe, mais pour moi, voilà, la marche, si j'envisageais ça comme étant un sport, probablement que ça me gonflerait et que j'arrêterais de la pratiquer. Après, en certaines occurrences, je me suis bien rendu compte que c'était quand même une activité physique, en particulier l'été dernier où j'ai accusé une très grosse défaillance sur un parcours qui devait nous prendre 5 heures, qui m'a pris plus de 7 heures. Là, j'ai vraiment marché comme un petit vieux et de fait, je pense que j'ai été victime d'une déshydratation et d'une hausse assez brusque des températures à laquelle j'étais pas préparé. Et là, ça m'a vraiment secoué. Alors j'avoue que c'est pas parce que je suis pas sportif que j'ai une dent contre les sportifs. En tout cas, je ne suis pas jaloux de leur performance. Après, j'avoue avec beaucoup de honte que je partage un préjugé qui fait passer les sportifs pour des imbéciles et qui se base peut-être essentiellement sur leurs déclarations à la fin des matchs.
C'est génial! Je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire au fait?
Aucune importance ce que tu as à dire, c'est pas ce qui m'intéresse.
Je passe des footballeurs ou des fameuses conférences de presse, des entraîneurs de foot et des tennismen, etc. Alors après, je pense que eux, ils enchaînent les banalités et les conneries, probablement parce que bah, si ça devait être des orateurs hors pair, ils s'exprimeraient autrement qu'à travers le sport. Voilà. De même qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont incapables de parler de leur travail, voilà, en faisant une phrase construite, mais simplement leur façon de s'exprimer, c'est de passer par l'image. Chacun son truc. Et il est vraisemblable aussi que bah, à la fin d'un match, tu as juste envie d'aller t'hydrater, de te reposer, d'aller voir ta famille, tes potes, voilà, de partager ta joie, ta détresse en fonction du résultat que tu as eu. Et pas de venir dire ah ouais, je suis très content d'avoir gagné. Bon, on se doute que le mec qui a gagné, il est content d'avoir gagné. Et puis je remercie ma maman, mon sponsor. Voilà, bon bah, je pense que à leur place, on ferait à peu près pareil. Mais sinon, non, non, je suis même à l'occasion très admiratif de certains sportifs. Bon, c'est du travail et je peux même leur rendre hommage à l'occasion. Je pense en particulier à Marie-Amélie Le Fur, qui est une athlète handisport, qui est une femme qui est vraiment extraordinaire, je trouve, qui dégage quelque chose en plus et donc qui a des résultats enfin, qui sont bluffants. Et j'avoue avoir été épaté aux derniers Jeux Olympiques, donc c'était l'été dernier, par l'athlète français, le gymnaste, alors dont je n'ai plus le nom malheureusement, qui est arrivé quatrième à une épreuve d'anneau, qui en était malade. Il a quand même concouru alors qu'il était blessé, durement blessé à un bras. Il a malgré tout fait le job. Il est arrivé quatrième pour une histoire de dixième, centième de point. Il aurait pu faire troisième. Ce gars-là, il était en larmes, en rage et disait qu'il reviendrait et qu'il referait un résultat. Et je suis persuadé qu'il va le faire. Et là, j'avoue que moi-même, j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit, ce type-là s'en veut alors que ce qu'il a fait, c'est juste surhumain. Et il continue à avoir la niaque et il se décourage pas et au contraire, je pense qu'il a 200% d'énergie et de motivation en plus et je trouve que eh ben ce mec-là pour moi il est encore plus grand, plus beau et plus fort que le type qui a fait sa médaille d'or sur la même épreuve et les gens comme lui, je les trouve extraordinaires et très méritants donc Chapeau l'artiste, même si je n'ai pas retrouvé ton nom et toutes mes excuses. J'ai parfois mauvaise conscience à ne pas être sportif ou à ne pas aimer le sport. Est-ce que c'est dû à une espèce d'état d'esprit qui nous pousserait à être sportif ou dynamique, alors qu'on prend de l'âge, etc. Je sais pas, je ne pense... Enfin, si de telles injonctions existent, elles me semblent plus tournées vers une recommandation amicale à se faire du bien et à prendre soin de nous pour vivre mieux plus longtemps, parce que vivre centenaire en étant incapable de bouger les 40 dernières années de sa vie, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Après, je ne suis pas sûr qu'il entre là-dedans une espèce de visée de culte eugéniste, comme on parle de culte de la beauté, etc., qui aurait été véhiculé par la mode. Bon, toutes les époques ont fonctionné à partir de canons esthétiques et de canons sociaux. Ces canons ont évolué, il n'y a qu'à regarder hein, les représentations des portraits, voilà, pendant une longue période, les portraits n'étaient pas souriants parce que tout simplement on montrait pas ses dents, ça se faisait pas. Certains portraits étaient aussi de profil, on trouvait que les gens avaient des nez exagérément longs et pointus, ça n'était qu'une convention, qui renvoyait à Dante. Quand on faisait des portraits d'écrivains, on leur mettait le nez de Dante pour signifier qu'ils étaient d'excellents écrivains. Bon, l'image des femmes, etc., les pilosités. Je pense que l'image de la personne dynamique, énergique et sportive, c'est un peu le même genre de choses. Sachant que pour moi, il n'y a pas de corrélation nécessairement entre le dynamisme et le sport. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait dynamiques et qui ne sont pas sportifs pour autant. Donc, pour moi, ça n'est pas nécessairement lié. Et heureusement, parce que j'espère parfois être capable de faire preuve de dynamisme. Et pour autant, je n'ai pas été contraint de me livrer à un sport au préalable. Voilà. En tout cas, donner cette interview en un jet comme ça, sans trop bredouiller, c'était en soi un sport. Donc voilà, j'espère m'en être tiré honorablement. Et puis, que dire, faites comme moi, soyez sportif dans la façon qui vous plaît, que ça soit sur un terrain, dans votre jardin ou en face de votre télé. Mais dans tous les cas, ayez bonne conscience. Au revoir et à bientôt.
Piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension.
Bon. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête.
Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud?
Je crois que je vais vomir.
Bonjour, je m'appelle Manu, j'ai 26 ans et je suis bénévole à Radio Campus Paris pour un format court sur le sport dans lequel on rencontre des sportifs ou des passionnés d'un sport et même pour parler d'une pratique sportive. Et derrière tout ça, c'est que je suis plus ou moins une buse dans la pratique du sport. On peut dire que je suis plutôt nul en sport, pas dans tous les sports, mais en général, le sport et moi, ça fait plutôt 0 et pas 1. Mais il y a toujours cette volonté de montrer ce que tu vaux. T'essayes de te surpasser et de montrer ce que tu vaux et que tu fais quand même l'effort de montrer qu'il y a une certaine réussite. Alors, je suis pas nul dans tous les sports. Il y a des disciplines où je me rappelle pendant ma scolarité, il y avait quand même des réussites. Je pense à la gymnastique, au badminton, ou au basketball. Et après, si je devais... la discipline où vraiment je me surpasse, et encore aujourd'hui, c'est la corde à sauter. Où aujourd'hui, je me suis même acheté une corde à sauter qui compte. Où c'est-à-dire, je peux faire des sauts, et en fait, elle comptabilise le nombre de tours. Et en général, je peux faire entre 150 et 200 tours de corde à sauter sans m'arrêter. Et aujourd'hui, j'en continue, je continue. Et je pense que c'est une des disciplines où vraiment je me surpasse, où je me dis « Waouh, vas-y, on continue, quoi ». J'ai deux souvenirs de nullité sportive. La première, je me rappelle, c'était le football. Où en fait, à 8 ans, mes parents ils m'ont inscrit au football parce qu'ils voulaient que je fasse une activité physique qui me permette de m'épanouir, de rencontrer du monde. Et en fait, en bas de chez moi, il y avait un club de foot où il y avait des amis et j'adorais. Mais j'étais vraiment nul. C'est-à-dire que quand on s'échauffait, on faisait des tours de terrain et on faisait après un échauffement avec les ballons. Et donc, on faisait des passes. Je ne savais pas jongler. Je savais pas dribbler, je savais vraiment rien faire. C'est-à-dire que même pendant les matchs, on me sélectionnait pas, on me mettait en défense en mode bon bah il reste 10 minutes, on te met en défense, mais je ne jouais jamais. Et une fois, un de mes entraîneurs m'a dit bon bah Manu, on est désolé, mais bon c'est la première fois que tu joues au football et ça se voit, on va te mettre avec les tout petits. Donc des tout petits qui ont 5-6 ans et moi j'en avais 8 et on me chambrait régulièrement parce que je me retrouvais vraiment avec les petits, mais vraiment des petits qui apprenaient eux à faire du foot. Et c'était enrichissant dans le sens où c'est super, on fait du foot et je vois différemment et j'apprends différemment, mais j'étais toujours nul, quoi. C'était, voilà, je pense que c'est vraiment une vraie nullité, c'est-à-dire de régresser avec des petits parce que vraiment on peut pas te supporter, on peut rien faire pour toi vu que nous on est censé faire un championnat et là on gagne rien. Et après le deuxième souvenir, je crois, c'est la piscine. Alors moi je déteste la piscine, j'adore nager mais j'ai vraiment une peur de la noyade. Et en fait une fois les cours de piscine au lycée où je mets à 15-16 ans tu te retrouves avec une ceinture alors que t'es censé savoir nager. Et puis et en fait, à un moment, le jour de l'épreuve, on me dit « faut sauter ». J'ai dit « je suis désolé, je peux pas sauter ». Et j'ai dû supplier le prof pour vraiment avoir l'opportunité de pas sauter sur le plongeoir, quoi. Parce que pour moi, c'était horrible. Et je crois le même jour, on faisait des longueurs. J'ai une de mes amies épuisée, a fait une pause de 5 secondes et qui s'est auto-noyée. C'est-à-dire qu'elle a lâché prise, elle s'est entre guillemets évanouie. Vraiment, ah oui, je pense que le jour, j'aurais été capable de dire je ne vais pas à la piscine. Voilà quoi. J'avais même une pote qui avait sorti l'excuse du staphylocoque doré, quoi. Et en fait, voilà quoi. Actuellement, niveau sport, si on peut parler de sport, je fais de la corde à sauter. Et quelquefois, mes déplacements se font soit à pied et majoritairement à vélo. Donc je pense qu'on est déjà sur une bonne base physique. Après, oui, je pense que vouloir être sportif, je pense que c'est plutôt du déclic, je dirais. C'est-à-dire un jour, on se dit, tiens, j'ai envie d'être sportif et on a envie d'être motivé. Mais ouais, pourquoi pas pratiquer une activité physique régulière. C'est vrai que là, j'en fais plus, à part ces petits trajets, ces petits exercices-là. Mais oui et non. C'est-à-dire que pour l'instant, je me dis que je suis déjà content de faire ces petits exercices quotidiens. Donc voilà. Et si j'étais sportif de haut niveau, je pense que, à l'exception de la corde à sauter, j'aurais plutôt choisi l'athlétisme et notamment le marteau, les lancers ou la perche. J'ai fait de l'athlétisme en fait pendant 15 ans et moi j'adorais faire des lancers, lancers de disque, lancers de poids, lancers de javelot, lancers de marteau. Toujours nul, hein, vraiment. Et j'étais toujours nul. Mais j'aurais adoré faire des grands championnats de marteau histoire de montrer ce que je vaux et de vraiment me donner envie de décrocher des médailles, quoi. J'ai pas une dent contre les sportifs. Peut-être parce que je l'ai été. Après, j'ai pas trop été haineux en étant nul face à eux. Je dirais que j'aime bien les sportifs puisqu'en fait, il y a une volonté de dépassement de soi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ils s'entraînent continuellement, nuit et jour, que ça soit la météo, que ça soit les blessures, et il y a toujours cette volonté de se dépasser, et que derrière la douleur, le travail paye, et que les résultats sont présents. Et je trouve ça un peu intéressant. C'est des personnalités qui nous donnent envie de faire du sport, ou qui nous motivent, ou qui nous donnent envie de changer une habitude. Je sais pas, par exemple, au lieu de prendre le métro pour faire 2 stations, on peut le faire à pied en 10 minutes, bah on change des habitudes. C'est ce que je retiens souvent des sportifs, c'est qu'ils nous donnent une motivation pour changer une habitude de vie ou voir pratiquer leur sport et l'essayer et se dire est-ce que ça me plaît ou pas. Mais je dirais pas que j'ai une dent contre les sportifs, sans mentir. Je pense pas qu'il y ait une injonction sociale ou une normalisation à pratiquer du sport. Je pense qu'il y a un peu deux discours qui se mettent en place aujourd'hui en France. C'est qu'il y a un peu le discours préventif, le discours qu'on donne aux jeunes comme aux plus âgés, c'est-à-dire pour être en forme, dépensez-vous bien, mangez, bougez, vous avez les douleurs liées à l'âge, les jambes, le dos, eh bien marchez, faites des escaliers. En fait, en soi, un discours un peu ajouter ces petits exercices dans votre vie quotidienne, vous verrez que ça fonctionnera. Et derrière, il y a un peu, ça c'est plutôt pour les plus jeunes, avec les réseaux sociaux, YouTube, où en fait on se retrouve avec une massification, il y a un côté subliminal du sport. C'est-à-dire que maintenant, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tombez soit sur un post de sport, ou voir une story de votre entourage d'une personne qui est en train de faire du développé couché ou faire du sport. Et donc derrière, on voit qu'il y a vraiment une pratique massive du sport. Tout le monde fait du sport. Et donc, on voit que maintenant, il y a une démocratisation de la salle de sport, en fait. Maintenant, que ça soit à Paris, alors je sais pas, à Tours, mais il y a un peu cette impression que on se retrouve avec à chaque rayon d'un kilomètre avec au moins une salle de sport, et en fait tout le monde peut faire du sport. Aujourd'hui on voit des gens en tenue de sport qui vont à la salle de sport alors que vous êtes là à faire vos courses le matin. Donc c'est vraiment intéressant de voir que le sport est partout, il est présent tout le temps, et donc on voit que le sport se démocratise et tout le monde va en faire. Mais on voit que ceux qui en pratiquent pas, ils sont pas mis sur le bas-côté parce qu'on leur dit « Ah, ok, d'accord. » Mais on leur donne plutôt des conseils. On leur dit « Bah, franchement, tu devrais, c'est bon et tout. » Mais il n'y a pas un jugement, je trouve qu'il n'y a pas un jugement, je trouve qu'il n'y a pas un regard un peu négatif en mode « Toi, tu fais pas de sport, ah bah, ça se voit et tout. » Non, on donne des conseils et les gens, en fait, donnent plutôt leur témoignage pour donner envie ou pour dire « Moi, le sport, ça m'a permis ci. » Voilà, quoi.
Ce que je voudrais dire à des ados, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire quand quelque chose nous a... Enfin, c'est facile à dire comme ça, mais au final, c'est facile de dire quand quelque chose nous a blessé ou quand quelque chose nous paraît insurmontable, quand on se sent mal à l'aise. Moi, j'ai bossé longtemps, tu vois, au lycée, et par exemple, je pense qu'il faut pas hésiter à ouvrir la parole, qu'on soit prof ou qu'on soit médiateur au sein du lycée ou d'un collège. Pas hésiter aussi à dire aux ados, aux enfants, de parler, quoi. S'ils se sentent pas capables de faire quelque chose, essayer de leur donner aussi un peu la parole, mais aussi de l'écoute, quoi. Parce que je pense qu'on a tendance un peu aussi à s'entériner dans son silence et dans son mal-être. Et peut-être aussi essayer de voir vraiment le sport comme un jeu. J'ai été quelques années chef ten scout, et autant je peux te dire là que j'ai détesté, tu vois, certains sports et tout, autant tu me mets une dimension de jeu. Et moi, je suis la première dans le game à vouloir faire des Olympiades, tu vois. Et je pense vraiment essayer aussi peut-être de réintroduire le sport, mais vraiment comme un jeu, un truc d'exploration où bah, tout le monde a sa place et tout le monde a sa chance, au final. Voilà ce que je dirais. Alors, peut-être pas directement aux ados, en tout cas aux gens qui gravitent autour des ados à qui on confie des adultes en devenir, c'est ça aussi que je voudrais dire. Et puis aux ados, pas hésiter à dire quand on n'est pas en confiance, pas hésiter à dire qu'on n'a pas envie, on n'est pas obligé. On a le droit d'être un petit peu mal dans son corps des fois, on a le droit aussi de pouvoir en parler, peut-être vouloir faire du sport aussi avec des gens de confiance, donc des amis par exemple. Voilà, quelques pistes un peu maigres, mais je sais pas s'il y a une solution miracle, mais en tout cas, s'écouter, ça c'est une certitude. Et puis pas endurer, parce que ça sert à rien, au final ça blesse plus qu'autre chose. Alors je regarde pas de sport à la télé du tout, Par contre, il y a des trucs que je trouve absolument magnifiques. Tu vois, typiquement, la danse classique. Je trouve ça absolument... la danse classique, mais ce que j'aime aussi voir, c'est alors t'as le côté danseuse ballerine qui fait des pointes, qui est d'une grâce, des silhouettes sylphides. Mais ce que j'aime aussi, c'est la méthode, la discipline extrêmement, enfin que j'aime. C'est pas aimé, mais ça m'intéresse beaucoup de voir à quel point le corps est soumis à un tas un travail monstrueux de discipline, à quel point ça change le corps aussi. Il suffit de voir les pieds des danseurs ou des danseuses étoiles pour se rendre compte du travail que c'est. Pour au final, ça apparaît tellement simple à l'œil quand tu vois une danseuse étoile, je sais pas, pour dire le truc le plus simple, l'acte des signes, ça paraît mais d'une évidence, d'une simplicité enfantine quasiment, alors qu'en réalité c'est un travail. Et ça m'intéresse en fait de voir à quel point les gens, le travail qui est derrière la danse classique par exemple. Après non, je peux pas vraiment dire que si, gamine, j'ai toujours rêvé de faire du saut à la perche.
Oui, oui.
Et ça me plaisait bien, ouais, mais en même temps j'en ai jamais fait, donc c'était plus ça a l'air cool, tu vois, mais jamais fait. Cet anglais qui s'appelle, qu'on a surnommé Eddie the Eagle, qui est anglais donc, et qui était skieur, et il a vraiment fait monter sa carrière de sportif un peu de briquet de broc. Je crois que c'est son entraîneur qui lui prêtait du matos pour skier, parce que le gars avait vraiment rien, et il a quand même réussi à faire les JO de 88, je crois. Alors il s'est complètement rétamé, hein. Les deux épreuves il a fini double dernier, mais c'est pas grave, il a été accueilli en Angleterre à son retour comme un héros national, et c'est ce qu'il est. Et en fait, le mec, deux briquets de broc, je te dis, et ça, j'aime bien. Et puis, il y a une deuxième, c'est une louloute, elle doit avoir 20 ans, et elle a un Instagram, elle s'appelle Lizzie Dances, je crois, et son vrai nom, c'est Howell, et c'est une louloute de 20 ans, grosse, qui fait de la danse classique, et qui fait aussi du modern jazz, et qui a dansé notamment avec Bilal Hassani, je crois, à l'Eurovision ou dans un autre show. Et c'est, voilà, elle danse merveilleusement bien, cette fille. Et je trouve que, putain, elle fait bouger les lignes de manière incroyable. Et pour moi, en tout cas, sans précédent, quoi. Alors, elle souffre beaucoup de la grossophobie, parce qu'évidemment, elle est beaucoup sur les réseaux. Donc, évidemment, non, ça va pas de soi. Mais de fait qu'elle soit sur les réseaux, elle doit faire face à beaucoup de grossophobie. Mais c'est une fille que je trouve extrêmement talentueuse, passionnée, acharnée de boulot. Ouais. Et elle, je l'aime vraiment beaucoup. Je me dis enfin. Après, je pense qu'il y a toujours eu des corps entre guillemets extraordinaires, pour pas dire, enfin, j'aime pas trop hors norme, donc extraordinaire. Je pense qu'il y en a toujours eu. Simplement, ils n'avaient pas la visibilité qu'offrent peut-être les réseaux sociaux aujourd'hui, puis la popularité qui accompagne. En tout cas, ça change et ça fait du bien, parce qu'en fait, au final, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout le monde en est capable, du moment que t'es passionné, que tu es capable de travailler ta discipline. En fait, n'importe quel corps, un corps gros est capable de danser du moderne jazz ou je sais pas, faire des claquettes ou de la danse irlandaise ou de la danse classique. En fait, tous les corps sont capables, peu importe. Tout dépend des limites qu'on y met ensuite, quoi. Tu vois, c'est ça. Et là, on parlait de l'école, et je pense que c'est là où elles naissent, ces limites, je pense, en partie.